Donc pour reprendre cette conférence, je redonne la parole à Marc Rémy.
Alors, le 15 mai 2011 était une journée présentée comme journée mondiale des indignés à l'échelle de divers pays touchés par la crise. En Espagne, elle fut le point de départ d'une réaction spectaculaire qui se prolongea pendant plusieurs semaines, jusqu'à 2 ou 3 mois parfois, par l'occupation de places emblématiques des grandes villes du pays, en particulier celle de la Puerta del Sol à Madrid. Ceux qui participèrent à ce mouvement de contestation voulaient dénoncer les injustices, le chômage, les procédures d'expulsion, les banquiers et les politiciens qui avaient conduit l'Espagne au bord de la catastrophe. L'occupation de la Puerta del Sol à Madrid déclencha un mouvement large, au caractère spontané et imprévisible qui entraîna une partie de la jeunesse pendant plusieurs semaines. L'ampleur de la réponse à l'appel transmis sur Internet par ses initiateurs n'était pas due aux seules vertus de la communication informatique. Elle répondait à une attente, en particulier dans une jeunesse condamnée au chômage et au petit boulot et qui avait le sentiment d'être privée d'avenir. Ce n'était pas le premier mouvement de contestation dans la jeunesse. En 2008 et 2009, des dizaines de milliers d'étudiants s'étaient opposés à une réforme universitaire dite de Bologne qui visait à mettre les universités sous la coupe des intérêts privés et contribuait à accroître la précarité et le chômage. Ils avaient manifesté durant des mois et occupé les universités. L'existence de collectifs habitués à discuter et à faire circuler des informations, des appels à manifester par Internet, avait joué un rôle dans ce mouvement et des habitudes militantes s'étaient prises. Alors le mouvement du 15M prit la forme des acampadas, ces vastes campements installés pendant plusieurs semaines sur les places publiques où le 15M conviait la population à venir discuter. Parallèlement, il prit la forme d'assemblées dans les quartiers de villes, voire de petites villes, qui devinrent des lieux de rencontre pour les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, des lieux de discussion où se préparaient des actions locales et où l'on pouvait discuter des causes et des responsabilités de la situation économique et du chômage. Comme tous les véritables mouvements entraînant de larges masses, il avait un caractère foisonnant et hétérogène. Mais ceux qui se mobilisaient se retrouvaient dans la dénonciation des pouvoirs établis, des politiciens, des banques, du chômage. Le mouvement trouva un écho parmi tous ceux qui étaient écœurés par les politiques de régression sociale menées par la droite et par la gauche au pouvoir depuis près de 40 ans. Alors que le mouvement conserva un caractère très multiforme, un certain nombre de ceux qui tentèrent de s'en faire les idéologues s'opposèrent à tout ce qui pouvait constituer une référence politique, en prétendant vouloir éviter l'instrumentalisation du mouvement par les vieux appareils. Il refusait en particulier ses porte-paroles, un petit peu autoproclamées. Il refusait en particulier qu'on puisse manifester dans les assemblées son appartenance à un parti, sous prétexte que ce serait contradictoire avec la démocratie directe. En effet, la démocratie, déclaraient les initiateurs du mouvement, devait fonctionner horizontalement, alors qu'un parti, ça fonctionne verticalement, de haut en bas, donc c'est contradictoire. Mais en réalité, sous couvert d'apolitisme, ceux qui intervenaient dans ce sens sur Internet ou dans les assemblées défendaient eux-mêmes des conceptions qui visaient à donner une certaine orientation politique au mouvement du 15M. Ainsi, toute référence à la notion de classe sociale était également bannie, sous prétexte que cela divisait le mouvement, comme l'était l'idée aussi de lutte de classe. Significativement, dans certaines manifestations, les drapeaux étaient interdits. Le drapeau de la République espagnole de 1936, qui est différent de celui de l'Espagne monarchique actuelle, comme le drapeau rouge, bien sûr. Cette attitude a pu rencontrer l'assentiment de nombreux jeunes qui éprouvaient légitimement un sentiment de rejet à l'égard des politiciens professionnels. Mais même si ceux qui les reprenaient n'en avaient pas conscience, ces idées, loin de renforcer le mouvement, en limitèrent la portée. fait significatif à cet égard. La plateforme nationale, qui au départ se voulait l'expression des objectifs du mouvement du 15M, comportait 8 points. 4 de ces points concernaient les problèmes des classes populaires, notamment le chômage et le droit au logement, et 4 autres des aspects institutionnels, si on peut dire, comme la démocratie directe, participative. Assez rapidement, ceux qui militaient pour évacuer la politique politicienne réussirent à faire que les 4 points concernant les problèmes des classes populaires disparaissent de la plateforme. Le mouvement du 15M ne pouvait représenter une perspective pour les travailleurs, mais il a représenté pour des milliers de jeunes la première expérience de mobilisation collective et il a contribué à les politiser. Il a ainsi donné un élan aux contestations qui se sont développées par la suite. Mais parallèlement, le mécontentement se traduisit électoralement par un tournant à droite. À la suite d'élections législatives anticipées, en novembre 2011, les socialistes, complètement déconsidérés, durent céder la place à la droite du Parti populaire, dont le dirigeant Mariano Rajoy devint Premier ministre. Son gouvernement aggrava encore la politique d'austérité, imposant de nouvelles mesures d'économie dans les budgets de l'éducation et de la santé. En février 2012, Rajoy concocta une réforme du droit du travail qui diminuait les indemnités de licenciement et précarisait davantage encore les emplois. Les dirigeants du PSOE votèrent contre cette réforme tout en restant très modérés dans leurs critiques. Quant aux organisations syndicales, elles entrebâillèrent la porte à une timide contestation, d'autant plus que la gauche n'était plus au pouvoir. Elles appelèrent à une journée de grève générale pour obtenir que le gouvernement s'assoie à la table des négociations. Sans se faire d'illusions sur la détermination des dirigeants syndicaux, des centaines de milliers de travailleurs, chômeurs, salariés du public et du privé participèrent le 29 mars 2012 à la grève et à d'impressionnantes manifestations, se saisissant de cette occasion de montrer leur refus des mesures du gouvernement. Le succès de cette journée encouragea une reprise des luttes. Ainsi, dans certains quartiers où les banques réclamaient l'expulsion de familles qui ne pouvaient plus payer leurs traites, les voisins, aidés par des associations, s'organisaient pour empêcher ces expulsions. Des réactions se produisirent aussi au sein de la classe ouvrière. En mai 2012, des grèves se développèrent dans des secteurs ayant des traditions de lutte, comme les chantiers navals d'El Ferrol en Galice, où les plans de licenciement se multipliaient. Un peu plus tard, en juillet, se développa une grève des mineurs des Asturies qui refusaient que la date de fermeture des bassins miniers prévue pour 2018 soit avancée. Décision qui précipitait le licenciement des 8000 mineurs et la perte d'emploi pour les quelques 20 000 travailleurs employés dans des entreprises dépendant de l'activité des mines. Ce mouvement, organisé par les syndicats, mobilisa la population de la région. Il suscita un vaste courant de solidarité dans toute l'Espagne pendant l'été 2012. Une marche noire qui se termina dans la nuit du 11 juillet 2012 au cœur de Madrid fut chaleureusement accueillie au cri de « Vive la lutte de classe ». Au cours du même été, les travailleurs de la santé de plusieurs villes s'opposèrent à la fermeture de dizaines de centres de santé et aux menaces de privatisation. Au niveau des institutions régionales ou municipales, des travailleurs s'opposaient aux suppressions d'emplois, aux réductions de salaires qui pouvaient atteindre parfois 25 ou 30%. Parfois encore, les dirigeants des administrations locales suspendaient tout bonnement le paiement des salaires pour une durée indéterminée parce que, disaient-ils, les caisses étaient vides. Le gouvernement répondit à cette contestation sociale par la répression. En juillet, il fit adopter une loi surnommée, à juste titre, « loi Bayon ». Prévoyant de lourdes amendes à l'encontre de ceux qui s'opposent à une expulsion immobilière ou qui campent sur les places publiques, comme les indignés en 2011. Elle interdit aussi cette loi de perturber la sécurité citoyenne devant le Parlement ou de diffuser des images de policiers filmés lors d'interventions violentes, par exemple. Mais cette répression ne découragea pas les mobilisations. Face à cette vague d'agitation, l'UGT et les commissions ouvrières se sentirent obligés d'appeler à une nouvelle journée de grève générale le 14 novembre 2012, qui fut encore une fois un succès. Mais conscient que les confédérations syndicales n'avaient pas la volonté de développer les mobilisations, des regroupements de syndicalistes, diverses associations et mouvements s'orientèrent vers l'organisation de manifestations. À Madrid, par exemple, les travailleurs de la santé se mobilisèrent, entraînant tout le personnel, des médecins, chirurgiens, infirmiers, personnel auxiliaire, aux agents de ménage et d'entretien. Ensemble, ils manifestèrent presque quotidiennement, dans la rue, autour de leur établissement, et s'adressèrent aux malades, à leurs familles, expliquant pourquoi il ne fallait pas laisser passer les hôpitaux au secteur public, au privé. C'était ce qu'on a appelé la vague blanche. S'ensuivit une vague verte, qui fut elle aussi un large mouvement de manifestation des enseignants cette fois, ainsi qu'une vague noire concernant les salariés de l'administration. Ce cycle de lutte culmina avec les marches de la dignité du 22 mars 2014, qui virent des millions de personnes se retrouver à Madrid avec la revendication exprimée par le slogan « Pain, travail et toi ». Ces mobilisations montraient, dans la durée, que le refus d'accepter les politiques d'austérité était partagé et soutenu par une fraction importante de la jeunesse et des classes populaires. Podemos s'est développé en reprenant à son compte les aspirations de ceux qui ont participé à ces mobilisations. Mais il n'a pas été le seul. Dans plusieurs régions d'Espagne, en particulier en Catalogne, ce sont des mouvements nationalistes qui ont capitalisé à leur profit la montée du mécontentement. En Espagne, en effet, les régions appelées autonomies sont dotées de prérogatives financières et administratives plus ou moins larges suivant les cas. Les autonomies ont donc leur propre gouvernement, leur propre assemblée, et des partis régionaux se sont développés, certains liés aux grands partis nationaux et d'autres n'ayant qu'une existence régionale. Ce fonctionnement a entraîné le développement d'une classe de politiciens locaux, nombreux et ambitieux, qui se disputent les postes et le droit de servir la bourgeoisie de ces régions. En Catalogne, le mouvement nationaliste a accru son audience en présentant l'indépendance de la région comme une perspective susceptible d'améliorer les conditions de vie de la population. Les nationalistes présentent ainsi les mesures d'austérité, la pauvreté, le chômage, comme une conséquence des décisions de l'État central, prétendant qu'une politique pourrait être plus favorable aux Catalans si elle était menée par un État catalan. Sans avoir la possibilité ce soir d'évoquer d'une façon plus approfondie ce que représente ce mouvement, nous tenons en tout cas à affirmer qu'il s'agit d'un piège pour les travailleurs, une de ces fausses solutions qui masquent les véritables responsabilités de la catastrophe sociale vécue par les travailleurs, les responsabilités du capitalisme. Et le danger particulièrement grave représenté par cette variante nationaliste, c'est qu'elle divise les travailleurs, alors que leur seule force réside dans leur capacité à s'unir et à faire disparaître entre eux toutes les frontières régionales, nationales ou religieuses. Pour revenir à Podemos, ce groupe s'est constitué en janvier 2014. Podemos, qui signifie « nous pouvons » en espagnol, se fixait clairement l'objectif de reprendre à son compte les revendications et les aspirations du 15M. En effet, après la victoire du Parti populaire de Rajoy, de la droite donc, aux élections de novembre 2011, une partie de ceux qui s'étaient mobilisés étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait créer un nouveau parti pour ne pas laisser à la droite le bénéfice de l'opposition au PSOE. Convertir l'indignation en changement politique était le titre du manifeste à l'origine du mouvement. Et ce manifeste affirmait la nécessité de présenter une liste aux élections européennes de mai 2014 pour lancer ce nouveau mouvement. Son chef de file, Pablo Iglesias, était un universitaire, professeur de sciences politiques. Après avoir milité aux jeunesses communistes de 14 à 21 ans, il avait été chercher son inspiration du côté de l'Amérique latine et des mouvements comme ceux de Chavez au Venezuela. Il s'était fait connaître en animant les débats d'une chaîne de télévision, la Tuerca, où il gagna la sympathie des milieux de gauche et d'un large public populaire. Beaucoup des membres fondateurs de Podemos ont eu le même parcours et proviennent du milieu influencé par le Parti communiste. Mais tous affichent aussi leur volonté de rompre avec le marxisme. Selon eux, la notion de classe sociale serait dépassée. Et en tout cas, il ne faudrait plus parler de lutte de classe. Les fondateurs de Podemos préfèrent se référer à la lutte du peuple, la lutte du peuple contre la caste ou l'élite, censée désigner les banquiers, les politiciens, les corrompus. La touche personnelle d'Iglesias consiste à rajouter une référence continuelle à la série télévisée Game of Thrones, qui représenterait, d'après ses propres déclarations, l'une de ses principales sources d'inspiration. Aux élections européennes de mai 2014, qui furent donc le premier scrutin auquel il se présenta, Podemos obtint, avec plus de 1,2 million d'électeurs, près de 8% des voix. En octobre de la même année, il tint son congrès de fondation en tant que parti. Dans son programme, Podemos reprend des idées mises en avant par le mouvement du 15e en proclamant la nécessité d'instaurer une vraie démocratie. En ce qui concerne les problèmes sociaux, le programme de Podemos n'évoque que des propositions vagues ou très modérées. Arrêter les expulsions, augmenter la fiscalité des riches, combattre la fraude fiscale, instaurer les 35 heures. Et pour réaliser ce programme, eh bien, il suffira aux masses de voter pour Podemos. En réalité, ces prétendus partisans d'une démocratie différente ne se différencient pas des partis institutionnels qu'ils critiquent. Iglesias se limite au seul terrain électoral et il ne veut absolument pas s'appuyer d'une quelconque façon sur des mobilisations dont on a vu pourtant qu'elles n'ont pas manqué. Et encore moins sur les mobilisations des travailleurs qui ont montré, au travers des luttes, parfois de grandes ampleurs, leur capacité à peser dans la vie politique et sociale. Par son programme, ses méthodes, par tous ses choix, Podemos est un parti qui situe son action dans le cadre des institutions de la bourgeoisie. Et avant même qu'il n'arrive au pouvoir, on peut voir qu'il n'a aucune difficulté à s'y intégrer. Lors des élections municipales de 2015, Podemos ne s'est pas présenté en tant que tel, mais a soutenu des listes locales très diverses. L'une de ces listes est arrivée en tête à Barcelone. Sa chef de file, Ada Colau, s'est fait connaître par sa participation à la lutte contre les expulsions de logements. Elle a été élue maire avec le soutien du Parti Socialiste de Catalogne. Dans plusieurs autres grandes villes, ces listes sont arrivées en seconde ou en troisième position derrière le Parti Populaire, mais à la suite d'accords avec d'autres partis de gauche, notamment avec le Parti Socialiste, elles ont pu conquérir les mairies. Ce fut le cas à Madrid, où Manuela Carmena, une ancienne juge qui s'était fait connaître par sa lutte contre la corruption, a été élue maire. Ce fut le cas aussi à Valence, la troisième ville du pays, à Saragosse, cinquième ville espagnole, à La Corogne, à Cadix et à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les élections régionales qui eurent lieu le même jour que les élections municipales confirmèrent la percée de Podemos. Dans deux régions, en communauté valencienne et en Aragon, en apportant leur voix aux candidats du PSOE, le Parti Socialiste, les élus de Podemos lui permirent de remporter la présidence du gouvernement local. Comme on peut le voir, Podemos a trouvé rapidement le moyen d'intégrer le jeu politique en devenant un partenaire du Parti Socialiste. Pour le moment, exclusivement à l'échelon local. Mais depuis les dernières élections législatives de décembre 2015, la question se pose pour la constitution du gouvernement national. À ces élections, Podemos a choisi de ratisser très large, en atténuant son image d'organisation d'extrême gauche. Ainsi, il a désigné comme deuxième de liste à Saragosse un ancien chef d'état-major de la défense sous le deuxième gouvernement du socialiste Zapatero, le général Julio Rodriguez. Iglesias a présenté ce général comme l'un des militaires à la plus remarquable carrière et a déclaré que ce serait un honneur, je cite, qu'il accepte d'être un ministre de la défense. À cette occasion, Iglesias a insisté sur le fait que son objectif n'était pas que l'Espagne sorte de l'OTAN, comme une partie de la gauche le revendiquait jusque-là, mais qu'il fallait reformuler les fonctions de cet organisme afin de construire un système de défense européen. Par opportunisme électoral, Podemos a mis beaucoup d'eau dans son vin, cherchant à attirer des franges modérées de l'électorat. Et cela d'autant plus qu'il était en concurrence avec une formation de centre-droit, Ciudadanos, nouvelle venue sur la scène politique et se présentant, elle aussi, comme une force de rénovation. À ces élections législatives de décembre 2015, Podemos a obtenu un peu plus de 20% des voix, se classant troisième, juste derrière le PSOE. Aucun des deux grands partis, ni le Parti populaire de Rajoy, ni le PSOE, dirigé maintenant par Pedro Sanchez, ne dispose de suffisamment de députés pour constituer une majorité pour former un gouvernement. Des tractations se sont donc engagées entre tous les partis représentés à l'Assemblée, sans succès à ce jour. De nouvelles élections législatives auront donc peut-être lieu en Espagne. Et en attendant, le gouvernement en place expédie les affaires courantes. Avant les élections, Iglesias avait déclaré, je le cite, « Nous ne participons pas pour faire 20%, mais pour gagner la Moncloa, c'est la résidence du Premier ministre. » Oui, mais comme Podemos n'a fait que 20%, il ne peut aller au gouvernement qu'en s'alliant au Parti socialiste. Et ces derniers mois, Iglesias a montré qu'il y était prêt, en proposant à deux reprises la constitution d'un gouvernement de toute la gauche. Si le Parti socialiste a décliné la proposition, il n'en reste pas moins que c'est bien la seule perspective que Podemos a à offrir. L'arrivée de Podemos sur la scène politique a troublé le jeu politicien habituel de ces 40 dernières années en Espagne. Mais il ne constitue pas une menace pour le système en place, ni pour le système politique, auquel il fournit une roue de secours, alors que les principaux partis sont en perte d'influence dans les milieux populaires. En prétendant pouvoir changer le système par les élections, Podemos cherche à convaincre les masses populaires de rester dans ce cadre du parlementarisme et d'en respecter les règles. Loin de menacer ce système organisé de façon à tenir les masses à l'écart des centres de décision politique, il fait tout pour le sauver. Et Podemos est encore moins une menace pour le pouvoir de la bourgeoisie. S'il critique les banques, il ne conteste pas du tout leur droit à posséder les entreprises et à diriger l'économie, ni à l'ensemble ce droit à l'ensemble de la classe capitaliste. Iglesias ne parle jamais de lutte de classe, ni de capitalisme d'ailleurs. C'est un choix politique conscient. Il se propose de gouverner dans le cadre du capitalisme, et s'il le faut, et il le faudra nécessairement, en prenant des mesures contre la classe ouvrière. Dès aujourd'hui, au niveau local, on peut voir à quel point les politiciens de la mouvance de Podemos y sont prêts. Il y a 2 mois, en février, la maire de Barcelone, Ada Colau, élue avec le soutien de Podemos, s'est opposée avec virulence à la grève des travailleurs du métro barcelonais mobilisés pour leur salaire et contre la précarisation de l'emploi dans leur entreprise. Non, les travailleurs n'ont vraiment aucune raison d'accorder leur confiance à ces politiciens qui sauront se montrer, à leur égard, aussi durs et intraitables que les autres représentants de la bourgeoisie. Alors, quelle conclusion tirer de ces 2 exemples ? En votant pour Syriza en Grèce et pour Podemos en Espagne, les travailleurs ont exprimé leur refus de l'austérité, leur refus d'accepter des sacrifices imposés pour sauver les profits des banquiers. Ils ont exprimé leur rejet des partis de gauche qui avaient trahi leur confiance et qui avaient démontré dans cette période de crise qu'ils étaient des serviteurs dévoués, des financiers, des riches et des exploiteurs. Ils ont apporté leur soutien à des partis qui affirmaient vouloir s'attaquer aux inégalités et au chômage et dont l'image combative était associée à des mobilisations survenues dans la période récente. De la part des travailleurs, ce vote pour Syriza et Podemos pourrait représenter une étape dans la maturation de leur conscience de classe, de leur conscience politique, car ils ont exprimé leur colère et leur révolte. Mais les dirigeants de Syriza et Podemos se proposent, eux, de canaliser cette colère en la limitant au seul terrain électoral et de détourner les travailleurs de toute mobilisation susceptible de mettre en danger le pouvoir des capitalistes. Tout leur discours sur la nécessité de redonner le pouvoir au peuple et de recréer une vraie démocratie ne leur servent qu'à leur permettre d'utiliser le vote des travailleurs pour s'intégrer dans le jeu politicien du parlementarisme bourgeois. Qu'ils soient sincères ou qu'ils mentent délibérément aux masses, le résultat est le même. Ils trompent les travailleurs quand ils affirment qu'il est possible de mener une politique de progrès social en restant dans le cadre du capitalisme, malgré la crise, la dette et le vampirisme du système financier. De telles perspectives ne peuvent conduire qu'à des impasses, parce que le capitalisme en crise ne peut offrir comme seul avenir que plus de chômage et plus de misère encore, et que pour échapper à cet avenir, la seule solution est de renverser ce système absurde et criminel. L'expérience de Tsipras en Grèce montre que tous ceux qui n'ont pas l'objectif de renverser le pouvoir des capitalistes finissent par s'y soumettre quand ils arrivent au pouvoir et par gouverner contre les travailleurs. Alors nous avons confiance dans la capacité de la classe ouvrière à relever la tête. Nous sommes convaincus que la classe ouvrière engagera la lutte pour défendre ses droits et ses conditions de vie, pour le pain, un travail et un toit, comme le clamaient les travailleurs en Espagne. Quand elle engagera cette lutte, avec la conscience qu'il s'agit d'une véritable guerre de classe contre les exploiteurs, il lui faudra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation de la bourgeoisie et jusqu'à la prise du pouvoir. Car les classes possédantes défendront leur pouvoir avec l'acharnement et la violence dont elles ont toujours fait preuve dans le passé. Et les travailleurs espagnols ont déjà eu à vivre en 1936 une telle expérience que nous avons tenu à rappeler. Toute l'histoire du mouvement ouvrier et de ses luttes pour changer la société montre que la classe ouvrière a la capacité de s'emparer du pouvoir. Par sa place dans l'économie, par ses habitudes de travailler collectivement, elle est la mieux placée pour affronter et vaincre ceux qui dirigent la société et qui sont ses exploiteurs directs. Mais toute l'histoire du mouvement ouvrier montre aussi que dans les périodes où la classe ouvrière se mobilise pour engager sa guerre contre la bourgeoisie, elle a besoin de pouvoir déjouer les pièges politiques qui lui sont tendus par tous les Syriza, tous les Podemos, par tous ces mouvements qui veulent modérer sa lutte et la désamorcer. Pour parvenir à surmonter ces obstacles politiques, la classe ouvrière aura besoin d'un parti révolutionnaire regroupant les plus conscients de ses militants, un parti qui soit capable d'exprimer ses intérêts à chaque étape de ses combats, qui soit capable d'opposer à la politique des représentants de la bourgeoisie, celle des travailleurs, afin que les travailleurs puissent comparer, comprendre où ils en sont, se fixer les objectifs adaptés et arriver à la conscience qu'ils peuvent et qu'ils doivent prendre le pouvoir. Alors, la conclusion à tirer, pour tous ceux qui veulent changer cette société, c'est qu'il est urgent d'œuvrer à construire un parti communiste révolutionnaire, regroupant des militants fondant leur confiance exclusivement sur l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et que le programme communiste révolutionnaire constitue la seule alternative à ce système capitaliste en crise qui pourrit sur pied.